BW. Vue d'Allemagne.
L'horloge tourne, moins de 15 jours encore avant le Bundestagswahl, les élections allemandes du 26 septembre. Meeting, interview, débat télévisé, fausse nouvelle. L'Allemagne, à l'heure du vote, on en parle dans un instant. Et puis, pollution de l'air, sujet de campagne en Allemagne aussi, mais c'est aux États-Unis qu'on ira dans la partie reportage de ce magazine dans quelques minutes. Reportage dans une des vallées les plus polluées de tout le pays, où les habitants vivent un enfer.
Le principal problème, c'est juste d'aller dehors, être dehors.
Vue d'Allemagne, Guten Tag, bonjour, vous avez le sommaire, Los Geht's, c'est parti.
Das Asylrecht kennt keine Obergrenze.
Wir haben jetzt 400 Milliarden Euro Schulden.
Wir verfehlen unsere Klimaziele mit dramatischen Auswirkungen. Und wenn wir jetzt über die Zukunft reden und das...
An Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind.
Es geht jetzt ja um die nächste Wahl. Und diese nächste
Steuersenkung bekommen, des Renteneintrittsalters gibt.
Wir müssen früher aus der Kohle aussteigen.
Ihnen das nur, wenn Sie klipp und klar sagen.
Der Kampf gegen Rassismus hat absolute Priorität.
C'était dimanche dernier, le 12 septembre. Alors, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais devinez qu'il s'agissait d'une discussion un peu animée. Extrait du deuxième triel en direct à la télévision allemande. Débat entre les trois principales têtes de liste qui ont une chance de prendre les commandes de la chancellerie après le scrutin du 26 septembre. Annalena Baerbock du Parti des Verts, Armin Laschet, le conservateur de l'Union CDU-CSU et Olaf Scholz, le social-démocrate du SPD. C'était le deuxième débat de ce genre depuis le début de la campagne. Il fut plus animé, plus bagarreur que le premier. Armin Laschet, le candidat des conservateurs, très mal en point dans les sondages, a tenté de déstabiliser et de décrédibiliser son adversaire des sociaux-démocrates, de l'attaquer sur son bilan de ministre et vice-chancelier dans le gouvernement actuel, de dénoncer le fait qu'il n'exclut pas une coalition avec l'extrême-gauche, alors que Olaf Scholz est en tête dans les sondages. L'actuel vice-chancelier s'est défendu, a dit son attachement à l'OTAN, au maintien de l'âge de départ à la retraite à 67 ans ou à des hausses d'impôts pour les plus riches. Au milieu, la candidate du Parti des Verts, Annalena Baerbock, a tenté d'affirmer ses positions et ses idées, de se poser en experte des questions sur le changement climatique notamment, et de montrer que les deux autres candidats ne peuvent pas être à la hauteur des enjeux du moment. Elle l'a fait en parlant par exemple de la sortie du charbon que Olaf Scholz et Armin Laschet veulent pour 2038, quand elle propose de le faire dès 2030. Le débat a été suivi par près de 11 millions de téléspectateurs et n'a pas beaucoup changé les sondages pour l'instant. Les sociaux-démocrates et Olaf Scholz sont toujours donnés en tête à un peu plus de 25%, devant Armin Laschet de la CDU-CSU autour de 20% et les Verts à quelque 15%. Mais il s'agit de sondages, donc pour l'instant, on a déjà vu les instituts qui les font se tromper, parfois de beaucoup. À suivre, donc, un dernier triel doit se tenir ce dimanche, le 19, avant le vote du 26.
DW.
Une campagne électorale marquée aussi, et c'est moins drôle que les débats, par les fake news. L'ONG Avaaz vient de publier en Allemagne un rapport très documenté sur ces fausses nouvelles. Et premier renseignement, Annalena Baerbock, la candidate du Parti des Verts, est la principale victime de ce phénomène. Écoutez bien, 56% des adultes en Allemagne ont vu au moins une fausse nouvelle la concernant ces derniers mois. Ça fait 30 millions d'électeurs potentiels, écrit Avaaz. Concrètement, on parle de photos sorties de leur contexte, de revendications politiques inventées, de déclarations qu'elle n'a jamais faites. Dans 7 cas de fausses nouvelles sur 10, c'est 7 candidates qui est visée. Un exemple, on affirme qu'elle veut interdire les animaux de compagnie. Alors cela pourrait paraître anecdotique, mais ce qui est plus grave encore, c'est que beaucoup de personnes ont découvert ces fausses nouvelles dans les médias traditionnels et qu'ils sont donc très nombreux. Alors ce n'est pas que ces médias traditionnels n'ont pas vérifié leurs infos, mais souvent, ils publient des articles pour expliquer qu'une info qui circule sur Internet est fausse, sauf que les titres des articles ne sont pas toujours clairs, reproche l'ONG Avaaz. Et dans le cas qu'on vient de donner, celui des animaux, par exemple, quand un journal titre « Annalena Baerbock déteste-t-elle vraiment les chiens ?» point d'interrogation, cela peut créer de l'ambiguïté, on ne reconnaît pas directement qu'il s'agit d'une fake news, écrit Avaaz. Et cela mène in fine à des situations comme celle que racontait le directeur de campagne des Verts à la DW dans un reportage vidéo tout récemment.
Pas plus tard qu'hier, je faisais moi-même campagne et une vieille dame a parlé de ce sujet des animaux. C'est une absurdité incroyable.
Et conclusion, les médias doivent parler de cette désinformation de manière responsable, la replacer dans un contexte plus large et expliquer comment elle fonctionne, dit l'ONG. Havas plaide également pour que les plateformes telles que Facebook ou Twitter envoient des rectificatifs, des corrections à tous les gens qui ont vu des fausses nouvelles. Elles peuvent le faire car elles savent exactement qui a vu quoi, dit l'ONG. Cela ne se fera certainement pas avant les élections en Allemagne, mais on le répète plus que jamais, en Allemagne ou ailleurs, soyez vigilants sur ce que vous lisez sur Internet.
You are fake news.
Vous êtes les fausses nouvelles. Donald Trump, habitué de la propagation de ces fake news qui s'en prenait à des journalistes, c'était il y a 4 ans. Alors quel risque pour l'Allemagne, sa démocratie et les élections du 26 septembre avec tout ce que je vous dis? Quelle sécurité pour ces élections? Eh bien, il est difficile de mesurer l'impact des fausses nouvelles sans recul, mais le passé montre des conséquences parfois très importantes sur les résultats en Allemagne et ailleurs. D'autant qu'aujourd'hui, le danger ne vient pas seulement de cette désinformation. On parle de cyberopérations à plusieurs niveaux, des attaques informatiques pour mettre des systèmes de vote en panne, par exemple. Cela combiné à des campagnes de désinformation très bien organisées, avec des robots qui propagent de fausses nouvelles ou encore le vol et la diffusion d'informations privées pour nuire à l'image des candidats. Des dangers bien réels auxquels n'échappe donc pas l'Allemagne, comme le reconnaissait il y a quelques semaines déjà Thomas Haldenwang, le président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution.
Nous pouvons certainement voir l'intérêt de certains États à vouloir influencer les élections fédérales de cette année. Il y a des preuves de tout cela.
Et derrière ces attaques et ces campagnes de désinformation, des États parfois, on parle souvent de la Russie, ou des groupes avec des intérêts bien précis. Alors pour sécuriser ces élections, l'Allemagne agit sur plusieurs niveaux. Les autorités soutiennent des institutions diffusant des informations vérifiées. Des experts informatiques sont aussi mobilisés. Plusieurs centaines d'attaques contre des boîtes mail de députés ont été enregistrées déjà depuis le début de l'année. Ainsi, les personnels politiques ont reçu des formations et des soutiens matériels aussi pour sécuriser leurs ordinateurs. Concernant le jour du vote, le 26, tout se fait encore sur papier. En Allemagne, pas de risque de piratage des machines, par exemple, comme on en a beaucoup parlé aux États-Unis lors des dernières élections. Là où pourrait venir le problème, c'est plutôt au moment de la transmission des résultats en fin de journée, depuis les bureaux vers les administrations qui compilent ces résultats. Cela se fait informatiquement parfois. Mais là encore, le risque est faible, veut rassurer Thomas Haldenwang, le président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution.
La transmission des résultats des élections ne se fait pas par Internet, mais par un réseau séparé et crypté.
Et le bon vieux téléphone fixe est aussi encore utilisé souvent pour ces transmissions en Allemagne. Pas de risque de piratage là donc. Les autorités se veulent donc dans l'ensemble rassurantes. Des équipes renforcées sont mobilisées et le seront jusqu'au vote. Des discussions avec les médias publics ont aussi eu lieu pour qu'ils soient très attentifs le jour du scrutin et préviennent des fausses infos. Le responsable de l'organisation de ces élections en Allemagne expliquait récemment dans une interview au journal Die Welt par exemple qu'il était possible que l'information que les bureaux de vote ferment non pas à 18h mais à 15h le jour du vote se propage sur Internet le jour du scrutin. Alors que c'est faux, les bureaux fermeront bien à 18h. Il faudra donc que les médias publics jouent leur rôle et réagissent vite en expliquant que tout cela est faux, si c'était le cas. On suivra tout cela, évidemment, et on vous en parlera le jour du vote, notamment avec une émission spéciale à suivre sur notre antenne le 26 septembre dès 17h, temps universel.
Vous écoutez la DW.
Vie d'Allemagne, deuxième partie, on s'envole pour les États-Unis avant le Zero Emission Day, le jour zéro émission de carbone le 26 septembre. Journée mondiale initiée au Canada dans les années 1980 contre donc les émissions de gaz polluants notamment, des émissions à l'origine de millions de morts prématurées chaque année dans le monde. On vous emmène aujourd'hui dans la vallée centrale de San Joaquin en Californie. L'air y est là un des plus pollué des États-Unis, près d'un habitant sur 12 souffre d'asthme. Reportage sur place, masque sur le nez, signé Élie Courboulet.
C'est une belle journée à Bakersfield, dans la San Joaquin Valley en Californie. Du soleil, 25 degrés, un peu de vent, et pourtant l'Union Avenue dans le quartier du Southside sonne creux. Comme depuis le début des vacances, pour les deux enfants de Camilla, c'est dans le salon que se déroule la partie de foot, avec le canapé en guise de but.
Je les garde à l'intérieur tous les jours. Parfois, il sort parce que la porte est ouverte. On est durement touché par l'asthme. Le principal problème, c'est juste d'aller dehors, être dehors, la poussière.
Devant ces crises d'asthme à répétition, Camilla et ses deux enfants, Michael 8 ans et Joseph 4 ans, ont multiplié les allers-retours au service des urgences de Bakersfield dans le comté de Kern. Pas toujours avec la prise en charge escomptée.
They didn't help us out. I had to go to the emergency probably like...
J'ai dû aller aux urgences au moins 6 ou 7 fois avant qu'il ne l'ausculte vraiment. Il disait qu'il avait juste de l'asthme, que ça allait finir par s'arranger. Il lui donnait un comprimé de prednisolone pour lui ouvrir les voies respiratoires, puis le renvoyait à la maison.
Maintenant, Camilla doit emmener le plus jeune Joseph à Los Angeles, à plus de 2 heures de route pour le suivi de son asthme. Un cas loin d'être isolé dans la région.
And we came out here in 2009.
On est arrivé ici en 2009 et puis en 2009, on a tous eu de l'asthme. Oui, ici, tout le monde est asthmatique et je sais qu'il y a d'autres enfants par ici qui ont de l'asthme aussi.
Agriculture intensive, élevage, extraction de pétrole, pollution du trafic automobile venu de Los Angeles. Rien n'est épargné aux habitants de la San Joaquin Valley, une région grande comme la Suisse, située entre mer et désert, délimitée par Sacramento au nord et Los Angeles au sud.
Le comté de Kern est l'un des comtés les plus pollués de ce bassin d'air, qui est bien sûr déjà le bassin d'air le plus pollué des États-Unis.
Kevin Hamilton, président de la coalition contre l'asthme en Californie.
Ce que vous voyez, c'est du pétrole. La production de pétrole et de gaz à son paroxysme. Vous voyez tous ces derricks, ce sont tous des pompes.
Ce cliquetis incessant, c'est celui des derricks, ces drôles de têtes de métal qui battent la mesure, inlassablement, pour extraire l'or noir du sol californien. Visible depuis les hauteurs de Bakersfield, le Kern River Oil Field est le 5e plus grand champ pétrolifère des États-Unis. En contrebas, pas moins de 10 000 puits répartis sur 45 km², parcourus de chemins de terre, grillagés de part et d'autre, le tout dans un décor de poussière qui donne au tableau des airs de Mad Max. En 2020, le comté de Kern a extrait les 3/4 du pétrole brut californien, soit près de 300 000 barils par jour. Et les habitants en ont payé le prix fort, avec 103 jours où la pollution atmosphérique a dépassé les limites autorisées. Selon l'Association américaine de pneumologie, plus de 75 000 des 900 000 habitants du comté de Kern souffrent d'asthme.
Il n'y a pas de capteurs de pollution. Il n'y en a pas sur les clôtures non plus. Une nouvelle loi doit rendre ça obligatoire. L'industrie s'y oppose vigoureusement. Des survols de la zone ont montré qu'il y avait d'énormes quantités de méthane dans les émissions du champ. Récemment, le California Air Resource a fait une étude au sol et a trouvé du pétrole.
Si Kevin salue les récentes mesures pour améliorer la qualité de l'air, le retard pris par le comté de Kern risque bien de compliquer les choses.
À cause de l'importance de la pollution de l'air ici, même avec les mesures du département local de la qualité de l'air pour parvenir à, je cite, un air propre, selon les conditions du Clean Air Act, ils ont reconnu que le comté de Kern n'y parviendra pas dans les temps. Donc, pour les 20 prochaines années, les habitants du comté peuvent s'attendre à continuer de respirer le même air vicié.
De son côté, Camilla espère un changement le plus vite possible.
Bien sûr, j'espère que les choses vont changer. Ça craint pour lui. Il ne peut même pas aller dehors et jouer. Il ne peut pas faire de sport. Il ne peut rien faire.
Afin de réduire la pollution de l'air, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé vouloir interdire l'extraction de pétrole et de gaz dans l'État d'ici à 2045. Un pari loin d'être gagné. En effet, la puissante industrie pétrolière californienne a déjà qualifié ce projet de nuisible et illégal et compte s'y opposer par tous les moyens possibles. Avec des arguments de poids. L'activité pèse 150 milliards de dollars et génère plus de 20 milliards de dollars de taxes par an. À Bakersfield, Élie Courboulet pour la Deutsche Welle.
Et reportage à retrouver en podcast sur notre site internet. C'est là aussi que vous retrouverez toutes les infos sur les élections allemandes du 26 septembre dont on parlait dans ce magazine. Je vous donne d'ici ce 26 septembre rendez-vous dès la semaine prochaine à la radio avec Anne Le Touzé pour le dernier Vue d'Allemagne avant le scrutin. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien. Et comme elle prend bientôt sa retraite, c'est Angela Merkel qui a le mot de la fin. Un au revoir lancé au ministre-président de Bavière à la fin d'une conférence de presse en mars l'an dernier, alors que les micros étaient encore ouverts. Au revoir, porte-toi bien et à bientôt, dit-elle avec même un peu d'anglais. Anecdote qui avait fait sourire à l'époque sur Internet, alors que donc, les micros étaient encore ouverts et que la chancelière s'en était pas aperçue. Je vous dis tchuss, moi aussi, et à très bientôt.
Tschüss, mach's gut und see you.